Bonjour à toutes et à tous, c'est Lia sur InfoRC. Aujourd'hui dans le magazine Mosaïque, je reçois des membres de l'association APAT.
Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.
Christophe Carrette, Claude Rollin, Philippe Robard, Stéphane Blanchère, Jean-Philippe Fonsa, Jérôme Gutin-Lombard et Axel Petit. Donc, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous dire à quoi correspondent ces lettres ?
Alors, l'APATPH représente l'Association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées.
Alors, expliquez-nous un peu votre association pour ceux qui vous découvrent.
C'est une association qui milite, défend les droits des personnes en situation de handicap par la gestion d'établissements médico-sociaux.
D'accord. Et qui sont les représentants de l'association ?
Alors, les représentants de l'association, c'est un conseil d'administration où je suis président, où Henri Gaillard est secrétaire et Madame Rollin, Claude, est trésorière et ça constitue un conseil d'administration qui oriente et qui décide des décisions d'orientation pour les établissements médico-sociaux qui sont gérés par des directeurs ou des responsables de service.
Quand l'association a-t-elle été fondée et comment est-elle définie ?
L'association a été fondée en 1988 et a été reconnue d'utilité publique en 2008. Elle est dédiée à l'accompagnement et au soutien des personnes en situation de handicap.
Où l'association est-elle située ?
Sur l'ensemble du département, avec plus précisément la Ville-Dieu comme siège social et comme entité propre, et après est constituée de différents services sur l'ensemble du département, avec des points de chute sur Privas, la Ville-Dieu, Aubenas, Coucouron et Annonay.
Monsieur Blacher, en tant que moniteur, quel est votre rôle ?
Bonjour. Alors déjà, notre rôle en tant que moniteur, c'est de pouvoir adapter le travail à chaque personne selon son projet, ses facilités et ses difficultés.
Quelle sorte d'activité organisez-vous ?
Là, nous évoluons dans un atelier de conditionnement. Donc nous préparons, suivant les commandes de notre client, des produits que nous devrons mettre dans des flacons fermés avec tout un protocole et des charges qui nous sont propres à nous pour pouvoir faciliter le travail et en respectant les ordres de notre client.
Quel produit ? Qu'est-ce que c'est comme produit ?
Alors, ça peut être de la cannelle ou de la noix de muscade que nous devons trier, peser et mettre en pot avec une quantité bien définie et un nombre bien défini.
Pourquoi êtes-vous devenu moniteur ?
C'était un souhait de ma part parce que je trouve qu'il est injuste de laisser sur le côté des gens qui sont en difficulté. Et donc voilà, je me sens très investi dans ce rôle pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de se sentir citoyennes à part entière comme chacun devrait l'être.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ?
C'est déjà la relation humaine et de pouvoir apporter par le travail de l'épanouissement à chaque personne, qu'elle puisse se sentir satisfaite de sa journée, de voir monter en compétences et des fois on part de très loin et on arrive très haut et c'est très bien. Mais de savoir que les personnes, par le travail, puissent avoir des petits moments de bonheur, c'est la joie de notre métier.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
J'exerce ce métier seulement depuis 3 ans après une reconversion.
Okay. Monsieur Carrette, d'où viennent les fonds pour payer vos équipes ?
Alors les fonds sont en fonction des établissements. C'est des subventions, on est 100% financé par l'État, entre guillemets, avec différents financeurs qui sont l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé pour les établissements ESAT. Pour les résidences accueil, nous sommes financés par la DDETSPP, Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations. Pour les services SAVS, donc Services d'Accompagnement à la Vie Sociale, c'est le département directement qui nous finance. Nous avons une petite enveloppe aussi de la région avec des subventions. Et nous avons la DETS, la Direction Régionale et Économique de l'Emploi et du Travail des Solidarités, pour l'entreprise adaptée.
Et comment est constituée votre équipe ?
Alors, ça dépend des établissements également. Nous pouvons avoir des équipes moniteurs sur l'ESAT ou sur l'entreprise adaptée. Sur les résidences accueil, nous avons des éducatrices qui s'appellent des hôtes de résidence accueil. Et sur la partie SAVS, on a des équipes de conseillers en économie sociale et solidaire ou des éducatrices spécialisées.
J'ai vu sur votre site que vous aviez des bénévoles. Qui sont-ils ?
Alors, toute personne qui souhaite adhérer à l'association peut devenir bénévole au sein du conseil d'administration.
Combien êtes-vous ?
Alors, on est 150 adhérents, représentant donc 49 salariés, 66 travailleurs en ESAT, donc personnes accompagnées, et donc 200 personnes en tout sur le département qui sont accompagnées sur les différents établissements.
Quels sont les trois différents pôles de votre activité ?
Il y a le pôle associatif qui milite et représente l'ensemble des bénévoles et donc qui siège dans toutes les commissions de bénévoles, mais également du coup le pôle administratif qui accompagne tous les établissements sur la partie administrative. Nous avons le pôle social donc qui gère la partie SAVS, accompagnement des personnes dans le milieu ordinaire et dans la vie sociale. Et donc, nous avons la partie pôle travail avec les différents établissements ESAT ou entreprises adaptées pour lesquelles les personnes que nous accompagnons sont donc dans le cadre travail et on les accompagne dans le travail et vers le travail et si possible vers le milieu ordinaire avec l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Où sont situés ces trois pôles ?
Alors, les trois pôles sont situés sur différentes villes. Nous avons le pôle administratif sur Aubenas. Nous avons le pôle social sur donc Privas et Coucouron et la Villedieu également. Et le pôle travail qui est donc sur la Villedieu et Coucouron.
Vous avez un dispositif emploi accompagné. À qui s'adresse-t-il ?
Alors, à toute personne à partir de l'âge de 16 ans, qui recherche un emploi vers le milieu ordinaire, qui a la volonté et la motivation pour avoir un accompagnement renforcé vers et dans l'emploi et dans l'entreprise. C'est un dispositif qui accompagne donc les personnes dans le cadre recherche de l'emploi, mais également adaptabilité du poste dans l'entreprise et vient donner des conseils aux entreprises qui souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap pour adapter les conditions de travail en fonction du handicap.
Comment peut-on intégrer le dispositif ?
Le dispositif, il y a deux solutions pour rentrer dans le dispositif. C'est soit par notification de la MDPH et donc de la CDAPH, ce qui nous permet d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé et donc effectivement qui nous rentre dans le dispositif avec une notification spécifique emploi accompagné. Où on a la possibilité que ce soit les services de l'emploi, donc les services France Travail, Cap Emploi et tous les dispositifs de l'emploi du département qui nous adressent des personnes en situation de handicap et qui voudraient un étayage spécifique de renforcer de façon à avoir un entraînement chaque semaine, une rencontre avec une conseillère et qui permet donc d'accentuer le travail.
J'ai appris qu'il existait un service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS. À qui s'adresse-t-il ?
Pareil, à toute personne ayant une reconnaissance handicap et avec une orientation de la MDPH pour entrer sur le dispositif SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Et donc, ça s'adresse à toutes les personnes à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans et qui accompagnent du coup toute personne dans le cadre social, administratif, accompagnement vers un emploi aussi quand même. Ça permet aux personnes en situation de handicap de travailler et sur tout ce qui est geste de la vie quotidienne. Ça peut être juste apprendre à mettre le lave-vaisselle, apprendre à faire ses papiers administratifs, à faire son ménage dans son logement, à gérer son logement ou juste la gestion du budget aussi.
Merci. Je donne la parole à Monsieur Fonsa et Monsieur Gutin-Lombard. Depuis quand êtes-vous dans cette structure ?
Alors moi je suis là depuis le 1er mars 2022 et j'ai fait mon stage en février de la même année, donc 15 jours.
Quel est votre rôle et que faites-vous ?
Alors moi je suis à l'atelier, on travaille sur les matières de muscade ou alors de la cannelle, des épices. Et mon rôle, c'est de peser, de trier les noix, par exemple. Et puis, je donne à ma collègue qui est en face de moi pour le mettre dans le flacon qui sera bouchonné plus tard.
Quel est votre rôle ?
D'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs postes en atelier. Il y a la mise en flacon des produits et après, il y a le bouchonnage. Et moi et mon collègue Philippe, là, qui est à côté de moi, on est à la mise en flacon. On pèse et après, il y a quelqu'un d'autre qui vérifie la qualité du produit. Et après, ce qui n'est pas bon, on le met au rebut. Voilà. Après, il y a la partie bouchonnage, c'est autre chose. Il y a deux endroits. Il y a la mise en flacon et au centre de l'atelier, à ceux qui bouchonnent, après c'est mis en palette. Voilà.
D'accord.
Et donc, moi, je préfère le conditionnement parce que c'est vrai que le bouchonnage, il faut savoir que c'est quelque chose de beaucoup plus répétitif que la mise en flacon. Voilà.
D'accord. Comment avez-vous trouvé cette association ?
Ben, à l'époque, j'étais à Cap Emploi et c'est Cap Emploi qui m'a aidé dans mon démarche. Mais pour les démarches elles-mêmes, d'appeler la pâte et tout ça, j'ai fait ça tout seul. Hein. J'ai pas eu ma famille. Moi, j'étais autonome pour faire ça tout seul. Voilà.
Alors, c'était compliqué ?
Non, parce que j'étais motivé. Donc, quand on est motivé, on peut faire beaucoup de choses.
Que pensez-vous de ce travail ?
Vous voulez dire au niveau technique ou alors au niveau humain ?
Niveau humain.
Au niveau humain, ben, ça fait rencontrer du monde. On voit des gens variés. Même si le problème de travailler dans le milieu du handicap, il y a souvent des gens du fait de l'handicap qui sont à fleur de peau, très susceptibles du fait de leur handicap, où il y a des gens qui ne parlent pas de la journée. C'est pas facile des fois, c'est pas facile, mais c'est intéressant.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ben, ça m'apporte déjà reprendre le rythme de travail, ça donne du sens à sa journée, et voir du monde aussi. Le côté sociabilisation et occuper ses journées, voilà.
Alors moi, c'était une association sociale qui m'a trouvé l'ESAT et pas Pôle emploi.
Et comment vous y êtes rentré ?
Eh bien, j'ai fait un dossier MDPH. Au départ, c'était en 2014 et puis renouvellement en 2019, puisque c'est tous les 5 ans. Et donc, c'est à partir de 2019 qu'on m'a parlé de l'ESAT, quoi. Voilà.
Que pensez-vous de ce travail ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Eh bien, après la coiffure, donc comme c'est aménagé, ben, ça m'apporte... c'est un nouveau travail pour moi. C'était un grand changement. Et puis, le fait que ce soit aménagé, c'est très bien, quoi, par rapport à mon dossier médical, quoi. Voilà.
Vous aviez une précision à nous donner ?
Oui, alors, je suis le nouveau directeur du Pôle Travail, j'arrive bientôt dans l'association. Je voulais vous préciser quand même que nos travailleurs accompagnés bénéficient d'un contrat de soutien. C'est-à-dire qu'il y a le travail, évidemment, mais il y a tout cet accompagnement autour sur le soutien. Et aujourd'hui, tout l'enjeu de l'association, c'est de venir proposer à nos travailleurs de diversifier les activités, parce que le conditionnement, c'est très bien, mais ça reste très répétitif et nous avons des gens qui ont besoin aussi de nouveautés et d'ouvrir un peu des horizons. Donc tout l'enjeu de ma prise de poste prochaine, ça va être de travailler avec mon président et les équipes pour pouvoir proposer à nos travailleurs de diversifier les tâches et que chacun puisse s'y retrouver parce qu'ils ont tous une valeur ajoutée et que certains seront plus performants peut-être dans le monde de la cuisine, de l'arboriculture, pour sortir un petit peu que de cette monotâche de conditionnement et de bouchonnage, même si elle est très intéressante parce que nous avons des gens qui ont des envies, des besoins et des richesses.
Qu'avez-vous fait cette année ?
Comme activité de soutien, il y avait français et maths. Mais moi, bon, j'ai un niveau scolaire assez important, donc ça c'était pas tellement adapté. Mais on a fait français et maths pour les gens qui ont beaucoup de difficultés en français et en maths. J'ai pas souvenir qu'on ait fait autre chose que ça.
Alors, moi, si. Le journal, par exemple, qui paraît tous les 2 mois et qui parle de l'ESAT, des handicaps, et puis qui parle d'autres sujets aussi, de la société, cinéma, sorties, événements, tout ça.
Et puis, pour compléter, vous avez aussi des ateliers de rappel des EPI, de tout ce qui doit être mis dans l'atelier, des ateliers de sensibilisation à comment, et ça, c'est les rôles des moniteurs, de vous sensibiliser, du coup, aux bons gestes professionnels, à adapter votre poste aussi dans vos postures professionnelles.
Et de l'hygiène aussi, ouais.
Ouais.
Voilà. Et puis, on a aussi un atelier ruche. On a des ruches et des abeilles.
D'accord.
Et on va récolter du miel, j'espère, pour 2025.
On revient à vous, Monsieur Carrette. Avez-vous besoin de partenariat et avec qui ?
À part de nouveaux donneurs d'ordre pour l'atelier conditionnement, comme Monsieur Robard le disait précédemment, on travaille essentiellement avec toutes les associations du département et limitrophes, parce qu'effectivement, un accompagnement ne se fait jamais seul, en tout cas, parce qu'il peut y avoir différents... En fonction des travailleurs, il y en a qui bénéficient ou pas de d'autres dispositifs comme le SAVS, mais qui n'est pas forcément notre SAVS... Il y a d'autres associations qui font la même gestion que nous. Et donc, les travailleurs peuvent être aussi à être avec des curateurs. Donc, on travaille avec tout ce qui est mesures tutélaires. Voilà, donc on travaille vraiment avec toutes les associations du secteur handicap, mais pas que. parce qu'il y a aussi tout ce qui est sport, sport adapté, handisport, et on travaille avec eux également régulièrement, et on échange régulièrement avec eux. Alors moi, j'ai la chance aussi, en tant que président de la PAT, d'être aussi le président du collectif Ardèche Handicap, et donc effectivement qui m'amène à avoir une vision globale du handicap en Ardèche. Du coup, j'échange avec toutes les associations, et je représente dans le cadre du collectif toutes les associations du département.
Quel est le niveau des personnes travaillant avec vous ? Sont-elles déjà formées ou pas ?
Alors, ça dépend du poste occupé. Effectivement, un directeur doit être diplômé. Un moniteur doit être diplômé. Tout dépend du poste attendu et reconnu. Voilà, les éducatrices, les personnes qui accompagnent sont censées être diplômées. Et par contre, les travailleurs et les personnes accompagnées, il y en a qui sont diplômés, il y en a d'autres non. Et on les accompagne au même titre.
D'où viennent les personnes que vous accueillez ? Est-ce qu'elles viennent de la région ou de toute la France ?
Ils peuvent venir de toute la France parce que les notifications MDPH sont valables sur toute la France, c'est national, sans demander une nouvelle notification au département.
Quelle est la répartition ?
Alors là, c'est quand même essentiellement ardéchois ou limitrophes en tout cas. On a aussi des personnes qui étaient en Drôme et qui ont déménagé, ont traversé le Rhône et donc arrivent en Ardèche. Mais c'est à 95% des personnes habitant l'Ardèche depuis un certain nombre d'années. Très rare qu'on ait quand même des personnes qui viennent de Paris, mais ça arrive. C'est vraiment ponctuel. Et effectivement, le but, c'est qu'ils intègrent quand même, du coup, l'Ardèche à terme. Parce qu'au moment de l'embauche, ils ne vont pas faire la route Paris-Ardèche tous les jours. Mais du coup, voilà, ils intègrent quand même l'Ardèche à terme.
Parmi les travailleurs, est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes ?
Alors, la répartition hommes-femmes est assez équilibrée quand même, avec, on va dire, 60% d'hommes pour 40% de femmes. Mais après, ça, c'est les statistiques un peu nationales au niveau du handicap psychique essentiellement, parce que nous, on accueille essentiellement du handicap psychique au sein des établissements quand même. Et le handicap psychique est essentiellement représenté en grande partie par des personnes du genre masculin plutôt que du genre féminin. Et ça, c'est les statistiques qui le disent.
Quel genre de handicap admettez-vous ?
Alors, nous sommes accrédités sur tous les dispositifs à tout type de handicap. Après, l'association est quand même reconnue sur le département pour plutôt avoir du handicap psychique ou mental. Mais on peut accueillir tout type de handicap. Moi-même, je suis en situation de handicap moteur.
Quels sont les différents secteurs d'activité proposés pour les personnes en situation de handicap ?
Sur l'ESAT, nous avons donc un atelier conditionnement à la Ville-Dieu et à Coucouron. Donc pour tout type de conditionnement, essentiellement alimentaire, mais on travaille déjà avec des personnes en non alimentaire. Après, nous avons aussi les jardins espaces verts, un atelier qui donc permet aux particuliers ou aux professionnels de nous interpeller, de nous demander une prestation de service de façon à aller faire de la tonte, de l'élagage ou autre chez eux ou dans leur entreprise. Et alors après, on a aussi une particularité, c'est qu'on peut aussi venir dans les entreprises avec une équipe, et ça s'appelle de l'ESAD hors les murs, de façon à nous aller faire la prestation directement dans les entreprises du milieu ordinaire. Voilà, il y a tout un tas d'activités qui peut être fait en fonction de l'entreprise. On vient, nous, dans un premier temps, avec la direction, étudier comment on peut accompagner l'entreprise et du coup mettre en sécurité nos travailleurs. Et derrière, on répond du coup à cette demande en intervenant directement au sein des entreprises avec des équipes.
Comment vous obtenez vos marchés ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on répond à des appels publics avec des offres directement via les plateformes des donneurs d'ordre. Soit les personnes peuvent également nous contacter directement via notre site internet ou notre téléphone. Soit c'est nous qui démarchons les entreprises également pour leur rappeler qu'on est là et qu'on peut travailler pour eux en fonction. Et toutes ces entreprises qui font appel à nous pour des prestations de services, il faut savoir qu'en fin d'année, ils ont aussi les OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, de façon à avoir des réductions d'impôts et donc rentrer dans leur budget aussi.
Effectivement, en 2025, nous allons très fortement communiquer sur la diversification de nos activités qui sont en train d'être choisies par le président qui se représente au conseil d'administration. Ce qui veut dire que sur le bassin d'Aubenas et des environs, on va parler de la PAT et nous allons aller démarcher des entreprises et de nouveaux marchés. Donc tous vos auditeurs qui sont en situation professionnelle pour largement faire appel aux compétences de nos travailleurs que nous mettrons à disposition, évidemment, en sécurité avec leurs moniteurs.
Vous proposez des logements, pouvez-vous nous en parler ?
Alors oui, c'est un dispositif résidence-accueil. Alors là, il n'y a pas de notification MDPH, il faut quand même le préciser, c'est des orientations du SIAO. Donc service intégré d'accueil et d'orientation qui nous fait des notifications pour des logements du coup, du milieu ordinaire malgré tout, avec des bails classiques sur Privas et sur Coucouron. Donc ce sont des dispositifs un peu particuliers. Le logement, donc, c'est un bail classique comme tout type de logement, avec par contre une spécificité avec des espaces collectifs et animés par des éducatrices, de façon à coordonner, à rappeler toutes les activités collectives, à rappeler au cadre aussi et à temporiser les problématiques logement, entre les tensions entre locataires qu'il peut y avoir. Ils sont vraiment là pour animer et diriger le collectif de façon à faire des actions de pédagogie aussi, ou d'apprendre les personnes à vivre ensemble. Mais il n'y a pas de délai. Vu qu'ils sont en bail classique, ils ont signé un bail et après, c'est eux qui décident de quand ils veulent sortir ou quand ils ont fait effectivement ils ont pris des avertissements et qu'ils sortent par décision du bailleur. Mais on essaie de ne jamais en arriver là, mais ça peut arriver.
Ça fait combien de logements ?
Alors sur Priva, nous avons 21 logements, dont 20 en résidence accueil. Et sur Coucouron, nous avons 11 logements, dont 10 pour la résidence accueil.
On arrive à la fin de cette interview. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Alors oui, je pense que c'est déjà les travailleurs et c'est important qu'ils puissent être présents aujourd'hui. Ça leur amène aussi une culture de la communication et d'échange. Mais également toutes les associations, parce que je parle de notre association, mais dans toutes les associations, il faut quand même rappeler que toutes ces associations qui gèrent des établissements médico-sociaux sont gérées par des bénévoles en conseil d'administration et après dirigées par des équipes de terrain. Mais vraiment, les décisions stratégiques et politiques, parce que ça reste de la politique, c'est les personnes bénévoles qui travaillent tout au long de l'année pour avancer et qui militent aussi pour leurs enfants en situation de handicap ou autres. En tout cas, toute personne qui a envie de militer sont représentées aussi dans toutes les instances comme la CDAPH, les commissions d'accessibilité et toutes les différentes commissions départementaux, régionaux ou nationalement d'ailleurs. Et c'est important de le dire parce qu'on oublie souvent les bénévoles. Voilà, les bénévoles sont là et c'est eux qui font finalement fonctionner toute la partie militante de l'association. Enfin, il faut dire qu'il y en a qui peuvent passer un certain nombre d'heures sur la semaine en tant que bénévole. Et voilà, c'est presque un deuxième travail en plus.
Est-ce que vous en avez assez ?
Assez de bénévoles ?
Oui.
Alors, moi, je suis au conseil d'administration. Nous ne sommes pas très nombreux. Et c'est vrai que si des personnes qui écoutent cette émission ont envie de venir au conseil d'administration ou en venir apporter des idées pour dynamiser un peu plus encore l'association, toute personne est bienvenue. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles personnes qui peuvent apporter plein de nouvelles idées. Je crois que 2025 va être assez dynamique parce qu'on a déjà au niveau du personnel plein de personnes nouvelles. Ce serait bien aussi qu'on en ait aussi deux nouvelles personnes dans les bénévoles. Je suis aussi maman d'une jeune femme qui est à la patte, qui est aussi au conditionnement, mais ce n'est pas forcément obligatoire. C'est assez passionnant. Je pense que ce sont des personnes extrêmement motivées dans le travail. C'est très, très intéressant de les côtoyer, de les accompagner. Donc j'encourage toute personne intéressée à venir nous rejoindre.
Qui contacter et comment si on a envie de vous rejoindre ?
Tout simplement en allant sur le site de l'association avec les bulletins d'adhésion. Et effectivement, à chaque assemblée générale, on peut nous rejoindre au conseil d'administration. C'est une élection. Hein. Et donc c'est à ce moment-là où on lance la campagne de vote et d'appel aux bénévoles supplémentaires dans le conseil d'administration. Donc ils peuvent aussi nous contacter par téléphone via le standard de l'association, via le site, via notre mail ou venir directement nous rencontrer au pôle administratif à Aubenas et échanger directement si on est là. Il n'y a pas qu'un bulletin à remplir et avec un chèque, c'est vraiment, on est dans l'échange et dans l'humanisme. peut-être, avant de clôturer, aussi remercier tous les salariés des services médico-sociaux qui travaillent tout au long de l'année aussi pour accompagner les travailleurs. Mais il y a aussi tous les professionnels qui accompagnent et qui sont peu souvent reconnus dans leur travail avec des salaires qui sont relativement bas, il faut le dire. Et c'est important de le rappeler, c'est aussi grâce à eux que le travail se fait. Je rappelle que c'est une chaîne humaine, entre guillemets. Nous, on est quand même là et les travailleurs, eux, ont besoin de nous pour pouvoir avoir un équilibre. Donc c'est vraiment un maillon de la chaîne et on n'est pas les travailleurs d'un côté et les bénévoles de l'autre avec les directions qui viennent appuyer. C'est vraiment une chaîne humaine et je pense que c'est important de le rappeler.
Oui, j'aimerais rajouter que la PATE est une association que je trouve personnellement assez familiale, dans le sens où elle est très bienveillante. C'est une association qui a comme valeur surtout des valeurs humaines qui transpirent chez tout le personnel et chez toutes les personnes qui viennent travailler dans ce milieu un petit peu protégé justement, mais pas seulement, c'est pas seulement la protection, sans qu'il y ait une vraie dynamique même au niveau de tous les travailleurs, aussi bien les travailleurs handicapés que le personnel qui accompagne ou le personnel social. Que moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, 1 an et demi, et ça me touche beaucoup. Je suis très touchée par cet esprit qu'il y a dans l'association.
Alors moi, je suis travailleur du conditionnement. Je voulais dire aussi sur l'aspect convivial, familial. Moi, la première fois que j'avais visité les attes de la ville de Dieu, j'avais été accueilli à l'époque par M. Tardieu, qui était directeur. Et ben, j'ai tout de suite ressenti une bienveillance. Et ce n'est pas dans tous les ESAT. J'en avais fait un en Drôme, on va être discret. Ben, franchement, au niveau accueil, j'ai vraiment senti la différence. J'avais demandé à visiter les attes de la ville de Dieu. On m'avait accueilli, on m'avait... Hein. Et ben, dans un autre, j'avais limite l'impression de déranger. Quoi. Quand j'ai voulu visiter, on m'a dit pourquoi vous voulez visiter pour... Enfin, j'ai vraiment l'impression de. Voilà. Alors, il faut vraiment dire qu'il y a de la bienveillance, mais ce n'est pas partout comme ça.
Oui, moi, c'est pareil, Jean-Philippe. J'avais été accueilli à l'époque par M. Tardieu et il m'a vraiment bien vendu ça, les attes, voilà, si je puis dire.
Je vous remercie, Lia, pour vous intéresser à ce sujet. C'est quand même, vu votre jeune âge, c'est intéressant. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, j'invite chaque auditeur à consulter la loi de 2002 et 2005 et qui pourra juger par lui-même où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2024. Parce que le handicap, c'est tous les jours, c'est toute l'année. C'est pas seulement au moment des Paralympiques où les grandes instances et les politiques se mettent à en parler. Il y a les travailleurs sociaux qui sont là tous les jours et qui on œuvre beaucoup et on a besoin de beaucoup de monde. Donc je vous remercie d'avoir apporté un peu d'attention à ce sujet.
On termine par la question traditionnelle. Que pensez-vous des radios en milieu scolaire comme InfoRC?
Le milieu de la radio en milieu scolaire, je trouve ça super intéressant, à la fois pour les collégiens et des structures comme nous, parce que c'est un domaine de mon côté que je connaissais pas du tout, et ça permet de découvrir ce nouveau domaine. Donc c'est vrai que j'étais au collège ici et que je m'y intéressais pas à l'époque, mais aujourd'hui je suis contente d'avoir pu participer à cette interview et de découvrir un peu ce milieu.
Ça peut apprendre aux jeunes élèves d'apprendre à communiquer, c'est une bonne chose, ouais.
Ouais, oui, moi aussi, je ne savais pas que ça existait, mais je trouve que c'est une très très bonne initiative hein, pour parler, pour les relations, tout ça.
Je pense que c'est une très bonne chose, que ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de prendre conscience des problématiques de la société et d'en traiter. Et déjà, rien que le fait d'en discuter entre jeunes et d'en informer tous les auditeurs, c'est une très belle chose. Continuez comme ça.
Je trouve que c'est important pour la pédagogie de tous nos étudiants de pouvoir se donner le droit à la parole, le droit d'animer des choses et de travailler avec d'autres personnes aussi. Et ça ouvre, je pense, l'esprit de tous nos collégiens, du coup, sur toutes les difficultés de nos personnes auditées. Voilà, ça ouvre sur le handicap, ça ouvre sur tous les sujets que vous pouvez aborder. Et c'est important. Parce que c'est des sujets qui ont un avenir dominant et prédominant sur le futur aussi. Et ça conditionne aussi. Et plus on jeune, on apprend à comment... Alors moi, je parle du handicap, mais plus jeune, on apprend le handicap, qu'est-ce que c'est et comment on peut échanger avec une personne en situation de handicap ou non. Ça vous permettra de mieux appréhender tout ce qui est accessibilité, l'acceptation de l'autre et du regard de l'autre et de non-jugement. Et c'est important.
Je trouve que la radio en milieu scolaire, c'est un formidable moyen d'expression qui ouvre vers la société civile et c'est un premier pas vers la citoyenneté puisque apparemment vous traitez de tous les sujets et ça donne de l'espoir. On dit que les jeunes sont tout le temps sur leurs écrans et leurs téléphones. C'est pas vrai, ils sont aussi derrière un micro et je trouve ça très chouette.
Vous prêchez pour une convaincue. Moi, je suis une fan depuis, peut-être pas 40 ans, mais au moins 30. Bravo Lia, parce que déjà il y a un travail formidable dans le questionnaire, dans la façon de s'exprimer également. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. Cette radio, c'est en général des sujets qui sont toujours bien approfondis par les jeunes qui présentent les émissions et toutes sortes de sujets de société. Donc, eh bien, longue vie à InfoRC et écoutez InfoRC dans votre voiture quand vous repartez. Notre nouveau directeur repart sur Montélimar, il faut qu'il 88. Se branche 88.6.
Merci à tous d'avoir accepté mon invitation pour cette interview radiophonique sur InfoRC qui a maintenant 40 ans concernant l'association APAT. À bientôt sur le 88.6 et 97.2. Merci à tous.
Merci.
Merci. Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.